bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léla Kadobounadi, Alison Wheeler, Tanguy Passureau sera là tout à l'heure, Daniel Morin, Albert Algou, et nos invités Alix Poisson et Jonathan Cohen. Bonjour. Soyez les bienvenus pour nous présenter, nous parler d'un délire. Je ne vois pas comment définir autrement ce film qui s'appelle Budapest, oui. Qui est en salle ce 27 juin prochain, la semaine prochaine, avec Manu Payette, Monsieur Poulpe, Alice Belaïdi, Hugo Savary, Olivier Blanc et vous, Alix Poisson et Jonathan Cohen. Tout part d'une histoire vraie.
Oui.
De deux étudiants en HEC qui ne réussissent pas ou ne trouvent pas en tout cas l'épanouissement de leur affaire. Et il y en a un qui dit « À Budapest, il y a des enterrements de vie de garçons qui sont dingues. On n'a qu'à finalement organiser ça pour nos potes. » Ça part de là.
C'est une ça part vraie. Exactement de là. C'est-à-dire qu'ils se font jeter d'une boîte. Pour l'enterrement.
Ils se font souvent jeter de boîtes.
Se font très souvent jeter de boîtes. Ils sont un peu à l'ancienne, en pensant qu'il faut prendre des bouteilles, tout ça. Ils sont pas du tout au fait de comment ça se passe aujourd'hui. Ils veulent fêter l'enterrement de vie de garçon de leur pote. Ils sont donc virés et ils tombent dans une boîte à striptease où il y a des femmes d'un certain âge, une boîte à striptease de plus de 50 ans.
En seigneur. Termes
de danseuse, seigneur. Voilà. Donc c'est des shows très particuliers.
Il y a des gens qui se cassent. Mais souple quand même.
Oui, voilà. Il y a une certaine souplesse, mais bon, ça peut se péter le bassin très très vite. Et du coup, une des danseuses leur parle de Budapest. Et effectivement, ils pètent un câble. Ils voient que c'est un parc d'attractions pour adultes. Et ils voient l'opportunité de monter une grosse affaire.
Et de prendre leur revanche, parce que c'est ça. C'est deux anciens étudiants d'HEC qui étaient boursiers, qui étaient un peu stigmatisés par les autres, qui étaient qui évoluent dans des milieux plutôt aisés, on va dire ça.
C'est vrai.
Et finalement, quand ils organisent...
Oui, nous, on est des banlieusards.
C'est des banlieusards. Et quand ils organisent un enterrement de vie de garçon à Paris, eh ben, ils rentrent nulle part. Donc, c'est un double rejet. Et finalement, le bonheur est peut-être ailleurs.
C'est un film sociétal, en fait.
C'est clairement sociétal. On s'inspire. On est parti un peu à la quiche.
Il y a un message.
Il y a un côté évidemment de Jonathan Cohen qui va bien parce que c'est vraiment un personnage qui joue. Dans le côté très cake avec je connais tout le monde, mais laisse tomber évidemment Coco qu'on va rentrer, il n'y a aucun problème. Je connais un tel. Il s'est fait jeter tout le monde. Et c'est super drôle parce que d'abord ces gens-là, ces personnages existent.
Bon, on les connaît très bien. Moi
tellement.
J'ai été comme ça.
Bon, on l'a tous été.
Mais je connais, j'ai appelé les nanas à mais non, ça va pas être possible, monsieur. J'ai vécu très souvent.
Et vous êtes marié, mon cher Jonathan Cohen, dans le film.
Et à qui d'après vous?
Avec Alix Poisson, voilà. Petit Vénard. Oui. Et là, vous faites des jaloux, je peux vous dire.
Je sais. Je reçois beaucoup de tweets.
Comment elle est dans la
menace
vie
de mort aussi.
Des menaces de mort, et puis elle est maquée, faut pas dire le contraire.
Et alors, c'est un souci. Et alors vous, Alix, vous êtes à la fois, comment dirais-je, tolérante dans les délires de votre compagnon en disant... Vous laissez faire pas mal de choses jusqu'à ce qu'il y ait une certaine limite franchie.
Oui. Ben, je pense qu'en fait, ils se complètent un peu tous les deux et que elle a un côté comme ça, rigide, très responsable, la tête sur les épaules.
Parce que vous bossez ensemble.
On bosse ensemble, on bosse dans la boîte de mon père en plus.
Il y a des choses à faire.
Oui, je pense que c'est une erreur, mais je pense qu'au départ, elle l'adore parce que justement, il a cette part de fantaisie et de dinguerie et puis il la fait rire et puis voilà.
Et il est encore le mec qui continue.
Non, mais c'est vrai, je pense qu'elle l'aime pour ça.
Faut faire gaffe, on va croire que c'est un documentaire et pas un film que vous jouez.
Et puis peut-être que ça lui plaît d'être la nana qui est la responsable, enfin qui a le pilier du couple.
La maman,
sauf
quoi. Que,
oui, voilà, la maman, peu, bah c'est ça.
Sauf qu'à un moment, elle s'enferme dans ce rôle-là, que lui s'enferme dans le rôle du mec qui veut pas grandir et que ça va devenir compliqué.
Parce que
ça va partir
schémas,
en vrille.
Hein.
Surtout que lui va partir beaucoup plus en vrille que Manu Payet, que le personnage de Manu Payet.
C'est ça.
Oui. Lui va vraiment clairement partir en live.
Parce que il y a.
Tu vas tout faire en maugréant comme ça.
Exactement.
Toutes les missions en maugréant.
En maugréant,
t'as vu
le voilà, comme ça, tout le monde a pris un mot. Allez, bam.
C'est super pour ça.
32 points au Scrabble.
La magie.
Du chronique. Waouh. Wow. Ah, borderline jusqu'au bout.
Effets spéciaux, bruitage. Donc, vous retrouvez à Budapest dans l'idée de monter cette boîte qui organise des enterrements de vie de garçon. À la fois... dépassé par les premiers clients que vous pouvez avoir, c'est-à-dire qui se disent « mais tout est permis, il n'y a pas de hors-la-loi », que ce soit la drogue, les femmes, l'alcool,
les excès de vitesse,
les tanks,
de tirer à la Kalachnikov ou avec un tank surtout et n'importe quoi, avec Arthur Benzakem qui est juste méconnaissable dans le film.
Il faut voir le générique pour savoir que c'est lui. Parce que extrêmement drôle.
Et puis, donc vous êtes pris par les clients qui en veulent toujours plus et tombent dans les extrêmes, mm-hmm. et pris aussi par le milieu, entre guillemets, mafieux, qui gère aussi tout ça.
Bah, on est pris, c'est-à-dire que quand même, on donne du... Enfin, c'est un grand parc d'attractions pour adultes, il y a effectivement que du sulfureux, c'est très compliqué de pas mettre le doigt dedans, pour le dire ainsi.
C'est ça aussi, c'est que eux, il y a un moment où ils sont attirés par ça, quoi. Ouais. Ils ont un moment où eux aussi ont envie de s'offrir une deuxième adolescence, je crois.
Exactement. Enfin, surtout toi, c'est des gens frustrés. Hein. Moi, quand même, c'est des gens frustrés qu'on n'a pas beaucoup vécu avant.
Sont les plus dangereux.
Ben ouais, moi j'ai été très frustré, gamin. Et je peux dire que dès que j'ai eu un peu de pognon, dès que j'ai commencé à gagner ma vie, j'ai fait n'importe quoi.
Et je suis témoin.
Donc je comprends ce personnage. Ben oui, non, mais parce qu'on se connaît depuis très très longtemps, on a fait le conservatoire ensemble, donc on s'est vu gamin.
Et figurez-vous qu'en sortant du conservatoire, on a quand même joué dans une mise en scène de Mathias Langhoff, qui est quand même un des plus grands metteurs en scène européens, à Nanterre-Amandier. Et après, on est parti pendant 6 mois en tournée ensemble.
Donc on se connaît très bien.
Dans un théâtre qui durait 3h20 et où on s'était très compliqué.
Un spectacle inter.
Genre culture, un peu ça.
C'était très
intéressant. C'était une pièce de Lorca, ça durait 3h30, enfin c'était
J'avais un rôle de 5 minutes. Allez.
Moi j'avais un rôle de 3 minutes 30.
Toi, on avait livré des très 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 petits rôles, mais on était trop contents.
Alors pour revenir là, parce que là vous avez
on a un peu bifurqué
les rôles principaux. Il faudrait qu'on parle du rôle aussi de monsieur Poulpe dans le film, parce que c'est votre l'ambassadeur, celui qui va soi-disant vous ouvrir des portes et vous guider.
Absolument,
ambassadeur un peu claqué.
C'est notre homme là-bas un peu.
Il est au bout du rouleau.
Il a vécu, ouais.
Il est très particulier. C'est un enfant, une espèce d'enfant un peu déstructuré de partout. C'est lui qui nous ouvre la porte un peu de tous les vices et de tous les délires de là-bas. Et il est extraordinaire, moi je trouve, dans ce film.
Bah c'est un clown en fait.
C'est un clown.
C'est un vrai clown.
Le film est réalisé par Xavier Jans. On prononce le S ou pas?
Jans.
Très bien. On est dans le Hangover à la française. On est obligé de parler de Hangover parce qu'on pense évidemment. À ce côté soirée qui tourne mal. C'est pas du tout la même histoire, mais on pense à cette notion de quoi qu'il y a.
Si, mais c'est complètement ça.
Je vois des scènes.
Je revois la scène de la figue. Je vois des scènes dans ces.
Il faut que t'expliques. Je peux pas dire je revois la scène de la figue.
Qu'est-ce que la figue? C'est pas juste un fruit.
Non, c'est pas juste un fruit. C'est on peut proposer aux futurs mariés et aux copains qui les accompagnent la formule un peu plus qui consiste à avaler un petit bout de gâteau. On va dire ça comme ça, qui a des effets et qui décuplent.
C'est la division d'extra et de figue.
Voilà, c'est 20% de fruits, le reste, c'est vraiment que de la drogue. Mais, et donc, et ça fait.
Et
ça
on parle partir. À un léopard tout d'un coup et on Exactement. Se met à parler à qui on veut. Quoi.
Est-ce que le.
C'est juste vraiment.
Tout était, comme ce film a l'air d'être un gros délire, est-ce que tout était écrit ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation? Parce que quand on voit, le casting entre vous, Alix Poisson, Monsieur Poulpe, Manu Payet, vous, Jonathan Cohen, on se dit, vous êtes des ovnis, vous faites beaucoup d'humour, vous avez un sens de la répartie et de la réaction, voilà. Et donc on se demande à quel moment vous restez dans les clous.
J'ai envie de dire, c'est difficile de jouer avec Jonathan Cohen sans faire un petit peu d'impro quand même.
Il y a de l'impro.
Mais ça peut être très bien.
Mais j'adore l'impro en fait. Et c'est vrai que Poulpe, pareil. Et vachement proposer l'impro, c'est de rester dans le vif en fait. L'impro, ça permet de rester dans le présent et de proposer.
Et de garder le tempo, mais ça peut aussi troubler vos partenaires, non?
Oui, mais après, vraiment en face, on a quand même.
Oui. Mais non, en plus, ce que je trouve bien, en ça, Jonathan, il me fait penser un peu, c'est des gens comme Arnaud Ducret et tout ça, c'est à Brad Pitt aussi, bien sûr, mais c'est que tout d'un coup, l'impro n'est pas là que pour faire le malin et pour faire j'en rajoute et je tire la couverture à moi, pas du tout. C'est juste que tout à coup, c'est des gens qui ont le sens de qu'est-ce qui se passe là tout tout de suite maintenant. Je prends un exemple très précis, par exemple, dans le film, le moment où on débarque à Budapest, moi et Alice, et où on est à la porte, et Manu avait une valise, une grosse valise. C'était pas du tout prévu qu'il y ait une impro avec cette valise, où se bugne dedans, et il se cogne, et c'est devenu un espèce de numéro de clown. Et c'est parce qu'ils savent se servir de ce qui se passe là, tout de suite, maintenant. Et du coup, des fois, ça te donne des pépites, quoi.
Donc ça veut dire ça
beaucoup de déchets.
Ça peut se passer
beaucoup de déchets, mais après beaucoup de montage.
Ça veut dire que ça ne se passe qu'en une prise, c'est-à-dire que
c'est un fond après.
Non, leur fond,
non,
c'est d'impro. Ça veut dire qu'à un moment donné où t'as trouvé le truc, et après, tu le développes. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu vois par exemple il y a une scène.
Donc ça devient une proposition faite au réalisateur.
Tu vois, il y a une scène de la SNAV là où on va demander l'autorisation pour, tu sais,
pour la licence.
Pour la licence, on est face à un espèce de jury tout ça. Cette scène c'est de l'impro. La deuxième partie, les petites bouteilles, le bois pas de l'eau, c'est un test ou ça, c'est de l'impro. Le petit pec est derrière, voilà, c'est pas très classos, mais c'est de l'impro. Et ça se fait comme ça. Wow. Et on se dit, bah, c'est ces petits moments-là. Waouh!
C'est de la bonne impro.
J'avais pas prévu.
Non, mais elle sait reconnaître la classe. Non, mais...
Elle sait reconnaître.
Elle en rêve, là.
Et c'est fou d'avoir dégoûté.
Après, au demeurant, il y avait quand même des scènes qui étaient très écrites. Hein. Enfin, je veux dire, les scènes de rupture et tout, elles étaient.
Ouais,
c'est extrêmement
drôle. On les a rebossées ensemble, c'est ça qui est cool. C'est qu'on avait la liberté de rebosser nos textes ensemble.
Alors, ce qui est étonnant, Alix, c'est que tout ça, en plus, s'est passé en très peu de temps. C'est-à-dire que le film a été tourné dans une espèce de densité.
48 heures.
30 jours. Non?
Oui?
C'est rare pour un film de tourner en si peu de temps.
Ouais, c'est vrai, c'est rare. C'est rare. Mais en même temps, moi, ça m'a pas vraiment perturbé.
Est-ce que ça a aidé
à
l'énergie, à la densité, peut-être même à la fatigue pour certaines scènes où il fallait jouer
Alors, la fatigue, il faut plus demander à Jonathan, parce que nous, on avait quand même moins de jours, Alice et moi, sur le film. Mais après, je pense qu'en tout cas, ça a contribué à cette impression de tourbillon et de rythme comme ça effréné parce que effectivement il y avait un rythme de travail hyper soutenu quoi et qu'il y a un moment on n'a pas le temps de se regarder et de réfléchir, il y a un moment on avance, on propose, les acteurs proposent
et comment une businesswoman comme vous très carrée peut tomber amoureuse d'un mec comme Jonathan Cohen?
Mais je vous dis, je pense que vraiment
elle est tombée dans le panneau.
La drogue,
je pense qu'ils se complètent. Mais je pense que, enfin, en tout cas nous, on était, c'est pas très développé dans le film, on s'était raconté ça, c'était qu'il s'était rencontré à HEC,
immature lui.
Ben oui, mais il y a des femmes qui aiment ça. Hein.
Mmh. Ben oui, mais attends, le ying, le yang, tu connais pas.
Moi, c'est pas mon cas, mais il y a des femmes qui aiment ça.
C'est le mystère de l'amour.
Non, mais c'est vrai, mais c'est très souvent, ces gens-là se trouvent. C'est un schéma très répandu, la maman et l'enfant. Elle en a marre d'être maman, lui, il en a marre d'être traité comme un enfant. C'est un des schémas les plus répandus dans les couples. Et quand on s'en sort pas, ben voilà.
Ça casse.
Eh ben, ça casse.
Et alors, on pourrait croire que c'est un film de garçons, parce qu'il y a beaucoup de filles nues, parce qu'il y a beaucoup de drogue, de prostitution, de délire. Et en fait,
c'est un truc de garçon.
Oui, c'est un truc.
Les filles nues.
Non, mais la drogue.
Je laisse Leïla réagir.
Non, moi j'ai rien, moi.
Enterrement de vie de garçon, tu peux dire oui, c'est un délire de mec. Quand les filles font des enterrements de vie de jeunes filles,
c'est vrai. On envoie aussi les signaux d'un film de mec. Voilà. On envoie un peu, voilà, en termes
et pourtant,
de.
Et pourtant, il y a un discours un peu plus féministe, je trouve.
Oui.
J'espère, oui, parce que c'est ce qu'on voulait quand même. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais après.
C'est un film très féministe, je l'ai pas vu, toi.
Ça reste, je pense, un film de garçon dans le sens où le duo de garçons. Enfin, le film repose dessus, mais on a toujours fait attention à ce que les personnages de filles que ce soit des nanas qui aient du caractère, que ce soit pas. Enfin, moi, le truc que je voulais vraiment pas, et ils ont fait super attention, c'est qu'elles soient juste chiantes. C'est-à-dire que on donne la parole au gars pour qu'il puisse dire ma femme, elle me fait chier, c'est pour ça que j'ai envie de me taper des putes. C'est-à-dire que là, il y a un moment, c'est pas possible. Enfin, faut pas qu'elles soient que chiantes, parce que sinon, c'est pas possible. Donc, on a fait en sorte.
Petit raccourci,
que non...
pardon, mais qui est.
Non, mais
souvent,
qui est juste,
voilà, qui est souvent employé.
C'est très répandu, t'as raison.
Je sais pas si c'est très répandu,
mais
en tout cas, je veux pas porter
dans les films,
dans la représentation des femmes, elle est chiante.
On a essayé, et les garçons aussi d'ailleurs, parce que du coup, on voit que quand même.
Et de pas victimiser les
épouses. Et de pas les victimiser du tout.
Alice et vous.
Ouais, que du coup, quand elles décident que ça part trop en sucette, et ben, elles utilisent leurs propres armes. C'est-à-dire qu'elles disent, tu veux jouer à ça? Très bien. Et ben, je vais devenir actionnaire majoritaire de cette boîte.
Et on va pas tout dévoiler.
Non, mais ça.
Et en même temps, c'est peut-être vous qui avez la réplique la plus, j'ai envie de dire, avec le plus de recul, c'est quand vous expliquez que finalement le business, ils vont le faire là-bas à l'étranger parce que c'est moins cher et ils vont exploiter d'une certaine façon.
Oui, c'est Alice Belaïdi qui dit ça.
Alice, voilà. Mais ça oui, fait que c'est les femmes qui tiennent ça. Ouais. C'est-à-dire dire oui, alors bon, vous allez faire de l'argent là-dessus, c'est bien, sauf que vous allez le faire beaucoup moins cher à l'étranger, vous allez exploiter une forme de misère humaine aussi et puis un coût de la vie qui n'est pas le même qu'en France. C'est quand même la fille qui dit ça.
Juste ça, les auteurs étonnaient d'ailleurs.
Ah ouais, que ça soit dit, c'est important.
Jusqu'où va la réalité puisque c'est une histoire vraie?
Ben, la réalité va jusqu'à ce plateau, vu qu'on a un des patrons de la boîte. Et est-ce que je spoil aussi un truc, un effet d'annonce? Mais alors ça, c'est tout moi. Il est, bah oui, non, c'est inspiré vraiment de deux personnes qui ont monté cette société qui s'appelle Crazy EVG. Et qui sont, voilà, qui ont saisi l'opportunité, qui ont maintenant grossi, qui sont les premiers en Europe de ce genre de bise.
Et il sera là tout à l'heure. On va en parler. On va en parler avec lui. Le film s'appelle Budapest. C'est extrêmement drôle, bien joué. C'est un voilà, c'est un délire dans lequel vous devez vous laisser emporter à partir du 27 juin prochain avec Manu Payet, Monsieur Poulpe, Alice Belaïdi et nos invités Alix Poisson et Jonathan Cohen. Ça a été écrit d'ailleurs. J'ai oublié de préciser par Manu. Payet, je savais pas.
Manu et Simon Monteiro.
D'accord. Non, mais je savais pas que Manu était avec.
Tu sais, il devait même le réaliser. Hein.
Ouais. Et en fait, et vous avez préféré prendre un vrai réalisateur.
Et on a dit bon, il y a vraiment donne la caméra à un gars qui connaît. Non, mais lui-même, il n'avait pas le temps, tout ça avec son spectacle, tout ça, donc il a préféré et juste titre donner la réalisation.
Rester sur le fauteuil d'osier et
je pense que l'univers de Xavier Jeans a apporté aussi beaucoup parce que c'est un gars qui voilà qui vient plutôt de films pointus, de films d'horreur, d'un univers très spécial au niveau de l'image et de la lumière. Et je pense
que d'image dans les scènes justement de nuit ou sous extas on a besoin de voilà, c'est super bien réalisé. Non, il y a aucun débat. Budapest donc le 27 juin. J'espère Jean-Jacques Lang que vous avez bien compris pourquoi Alix et Jonathan étaient nos invités.
Nagito mio. Comment ne me sentirais-je pas en parfaite connivence, intelligence, convergence, correspondance, résonance.
Oui, plein tout en danse, oui.
Tumescence, flatulence, on en a parlé tout à l'heure, le petit pet. Bref, des tas de trucs en danse avec des comédiens sensationnels. Alix Poisson et Jonathan Cohen. Salut Lily, big up Jojo. Qui dans ce film se met au service de ce que durant toute ma life, aux côtés de mon cousin Jack, j'ai défendu avec autant de passion que d'énergie. La teuf, la fiesta, la nouba, la bamboula, le canon à confetti, la défense, l'oubli.
Oui, merci.
La honte, les merci. MST, le vomi, la mort. Bref. La fête dont l'EVG, enterrement des vieux garçons, vous en parliez un instant, que vous avez évoqué, est désormais une variante super mégaphone. Vous comprendrez donc, Caro Nagisimo, à quel point j'ai pu être désarçonné. En assistant à l'algarade qui vous a mis aux prises avec JNB, notre rédac-chef velu, juste avant, vous pouvez vérifier, et derrière, juste avant que vous entriez en studio. Et dis-moi, JNB, sur ma fiche, t'as marqué Budapest. C'est quoi son prénom? Budapest, c'est pas un acteur, maître. C'est la ville où se déroule l'histoire. Bah, t'aurais pu marquer dans quel pays ça se trouve, Budapest. Budapest, maître, c'est Hongrie, là où il faut désormais aller pour faire la fête, comme dans le film. Mais non, c'est pas là qu'il faut aller pour aller faire la fête, c'est en Russie. Et je vais te dire un truc, j'en ai rien à foutre des enterrements de vie de garçon. Je suis pas chauvin, mais moi les garçons que je veux voir enterrés sous le gazon, et je vais voir de mes yeux dès demain, c'est les Pérouviens et les Danois le 26 juin. Voilà, cher Alix.
En fait, c'est juste pour balancer que je vais voir les matchs de Coupe du Monde, c'est ça.
Ouais. Mais vous avez le droit d'aller faire la teuf où vous voulez, mon cher Nagui.
Le trop aimable.
Hein, votre carré.
Mais je vous laisserai l'antenne, chers amis.
Tout à fait. Et donc, voilà comment se prépare la bio. Quant à moi, pas besoin d'aller en Russie comme vous, Nagui. Ah. Je vous invite tous au Banana Café, dès ce soir, pour une soirée mousse, foot poppers, space cake et vodka, avec pour l'animer une troupe de gold dancers brésiliens, les transversales. Bonne émission à tous.
Merci, Albert.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
J'ai cité Manu Payet, Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe, Alice Belaïdi, Alix Poisson. J'ai oublié de citer, Artus, qui est présent également dans le film.
Il est super aussi. Il est vachement bien.
Il est vachement bien. Mais c'est un fou. C'est un fou total. Là aussi, ça rajoute un barge de plus, quoi, dans
l'équipe. Là, pour le coup, il y a eu de l'impro aussi, quand même.
Énormément d'impro à Artus.
Mais sa vie est une improvisation, Artus.
Il est très fort.
Ali Mariard, Aude Le Gastellois, Antoine Gouy, Henrietta Edvy, et donc le Arthur Benzaken. Tout à l'heure. C'est la moindre des choses. On va parler avec justement l'un des fondateurs de Crazy Voyage, hein, puisque c'est le nom de la boîte. Aurélien Boudier sera notre invité tout à l'heure. Mais d'abord, les oreilles de Leïla ont sifflé quand on vous a dit qu'Alix et Jonathan venaient aujourd'hui.
Oui, et quand je pense à vous, Alix et Jonathan, je pense à vos carrières et précisément aux séries, aux apparitions télé qui vous ont fait entrer dans le salon des Français, et c'est pas rien, notamment celle-ci pour vous, Alix.
Bien sûr. Allez, les enfants, on débarrasse.
Ah non, mais j'ai déjà mis la table, c'est à Letty et Jules de débarrasser.
N'importe quoi, ça marche pas comme ça.
Non, mais y a pas de raison.
Non, mais moi j'ai pas mis la table parce que j'avais du travail.
Genre, mais c'est nouveau ça.
Bah oui, je peux le rater moi.
Non, mais c'est toi la ratée, la espèce de bolos.
Gros connard.
Oh, vous calmez les deux là.
Putain, non, mais attends, elle m'insulte et vous dites rien.
Attends, mais c'est toi qui a commencé, je m'en fous, je débarrasserai pas.
Bah, moi non plus.
Vous me saoulez les deux, vous montez dans votre chambre.
Allez, dépêchez-vous là.
Oh, c'est pas possible quoi.
Fatigue.
Pour rien leur demander.
Par en mode d'emploi, vous parliez tout à l'heure d'Arnaud Ducré. J'imagine que ça doit être assez joyeux sur le tournage de cette série, oui. Tous les deux. En matière d'impro, ça doit être pas mal aussi. Il y en a moins que...
Oui, il y en a. Mais après, on est très bien servi au niveau des textes. Donc souvent, et puis on fait des lectures en amont. Ouais. Donc du coup, on prépare beaucoup. Mais oui, bien sûr. Bah, oui.
Par en mode d'emploi, c'est depuis 2013. C'est un carton assez incroyable. Je le disais, vous faites vraiment partie du quotidien de beaucoup de Français, ouais, depuis de nombreuses années. J'imagine aussi qu'il faut arriver à casser, ou pas casser cette image, mais en tout cas la décaler pour faire autre chose. Est-ce que ça, c'est une problématique qui pourrait être la vôtre aujourd'hui en tant que comédienne?
C'est assez marrant parce que régulièrement dans les interviews, on me pose cette question, oui. Et je réponds toujours la même chose. Je dis, mais je n'arrête pas de faire des choses diamétralement opposé à ce truc-là. C'est-à-dire que si vous regardez, moi j'ai commencé avec l'affaire Courgeot, j'ai enchaîné sur Les Revenants, et tout en faisant Par en mode d'emploi, j'ai tourné une série pour la BBC qui s'appelle The Collection. Là, je viens de tourner une série pour Arte qui s'appelle Jeux d'influence, qui est une série politique où je fais une journaliste, je fais Budapest. J'ai pas du tout l'impression de ne faire que ça.
Je dis pas que vous faites que ça, mais simplement que le grand public, souvent, parce que c'est tellement fort aussi Par en mode d'emploi, que tous les exemples qui peuvent être cités en parallèle, c'est compliqué d'égaler un tel succès que Par en mode d'emploi, c'est vraiment le truc phare en télévision quand même.
C'est
4 millions de personnes tous les jours.
C'est complètement dingue.
Mais après, ça permet aussi de faire d'autres choses. Évidemment, le succès est colossal.
La seule véritable question, c'est pas dans l'esprit du public, c'est dans l'esprit des réalisateurs, des metteurs en scène, de se dire.
Pour le moment, j'ai plutôt de la chance parce qu'on me voit dans plein de choses différentes.
Et c'est le cas d'Arnaud aussi.
Bien sûr.
Et pour vous, vous disiez la dernière fois, Jonathan, que Serge Le Mytho, vous aviez un petit peu peur que ce personnage vous étouffe aussi, enfin en tout cas qu'on voit en vous que Serge Le Mytho.
Ouais.
J'ai dit ça, ouais.
C'est vrai,
c'est que des rôles de mytho.
Ça limite pas du tout. Quoi.
C'est toi qui les vois comme ça, c'est une question de point de vue. Oui, ça pourrait. Mais après, j'ai pas si peur que ça parce que je dois quand même beaucoup de choses à ce personnage et ça, c'est assez cool. Mais là, effectivement, il y a une direction qui est en train de se prendre. Mm-hmm. J'ai accès, grâce à ce personnage encore, à des films de mieux en mieux, des réalisateurs, mais dingues. Et donc du coup ça prend, en fait c'est des choses qui se font toutes seules, tu vois, enfin tout seul, c'est-à-dire que ça s'oublie au fur et à mesure, tout d'un coup ça devient Jonathan Cohen j'espère en tout cas que ce sera comme ça dans ce rôle-là, ou on oubliera petit à petit Serge, mais j'ai pas encore envie de l'oublier.
Mais surtout, ce qui est marrant, pardon, excuse-moi, je te promets,
il y a un film qui va se faire dessus.
C'est vrai? Ah oui, ouais. C'est vrai. Ah, génial. Ouais. Vous revenez à Serge.
On revient au basique. et non, c'est très cool, donc on est en train de l'écrire avec les créateurs de Serge.
Ça serait mieux la bouche devant le micro.
Oui, c'est ça. Moi, on m'a toujours dit devant le micro. Je crois que c'était foutu de ma gueule. Okay.
Non, mais en plus, pardon, je te coupe, mais c'est parce que aussi, nous, on peut pas raisonner comme ça, parce que souvent, les gens voient à très court terme. Et en fait, nous, on voit à long terme. Et c'est vraiment ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un comme Alexandra Lamy, que moi, j'aime énormément. Je pense que la terre entière s'est dit à un moment, ah là là, un gars, une fille, ah là là, un gars, une fille. Mais elle savait que, j'ai entendu une interview l'autre jour où elle disait, mais vous savez, moi, je suis très patiente et je travaille pendant ce temps-là. Et on travaille, on construit. Oui, et on traverse d'autres personnages.
Alexandra Lamy, Jean Dujardin n'a strictement rien fait après la série.
Oui, non, mais c'est vrai.
Il y en a un des deux qui a
Jean Dujardin, ça va très vite, et Alexandra Lamy, ça ne va pas vite. Mais c'est faux. Et au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt. Enfin voilà, la réalité a prouvé le contraire.
Oui, pas l'inverse.
Non, pas l'inverse. Non, pas du tout. Mais la carrière d'Alexandra Lamy est exceptionnelle.
Mais il y en a un mieux que l'autre.
N'importe quoi. Hein, n'importe quoi. La drôle d'humeur d'Alison Wheeler, c'est maintenant.
C'est pas vrai.
Merci.
Oh, chouette. Bonjour à
tous, bonjour Nagui. On est à 10 jours de la marche des fiertés LGBT à Paris. Vous le savez, les couples homosexuels ont le droit d'adopter en France depuis la loi Taubira en 2013. Mais spoiler, on leur met encore des bâtons dans les roues. À en croire les propos de la responsable du service adoption de Seine-Maritime, les homosexuels désireux d'adopter un enfant ne sont pas prioritaires et doivent s'ouvrir à des profils d'enfants atypique. What the fuck? Pas prioritaire, je sais qu'en France la priorité est à droite, mais c'est pas une raison. Déjà que l'adoption c'est un vrai parcours du combattant pour les couples hétéros, mais là pour les homos c'est carrément sur un stage de survie avec Mike Horn et Christine Boutin. C'est quand même étrange de dire aux couples gays, vous avez le droit de vous marier, mais en revanche vous n'êtes pas prioritaire pour adopter, d'accord? C'est comme si on disait, t'as le droit de vote, mais t'es pas prioritaire dans l'isoloir et à la fin il te reste que des bulletins pour Jean Lassalle. Si on suit leur logique en Seine-Maritime, imagine à la boulangerie quand tu vas acheter ton pain. Bonjour, je vous voudrais une tradition. Alors désolé, vous êtes homosexuel, vous n'êtes pas prioritaire. En revanche, si vous voulez, je peux vous mettre une demi-baguette d'hier qui a un peu morflé. Car oui, selon les conseils de cette dame, en plus de pas être prioritaire, les couples homosexuels devraient s'ouvrir à l'adoption d'enfants au profil atypique. Ah d'accord, atypique c'est un mot sympa pour désigner un enfant qui a des besoins spécifiques, par exemple si l'enfant a un handicap, si il vote Modem ou si c'est un Kids United. Sainte Marie de la Mecque, atypique, quelle hypocrisie. J'avoue, ça me fait le même effet quand je me suis fait larguer par mon ex et qu'il m'a dit « T'es une belle personne ». Cette fameuse offre 2 en 1 de la société française. Pour un droit obtenu, une discrimination vous est offerte. C'est déshabiller Pierre pour habiller Paul et après tout le monde s'étonne de les retrouver à poil sur un char à la Gay Pride. En théorie, les couples homosexuels ont le droit d'adopter, mais la réalité est tout autre. Si on était vraiment honnête, on ajouterait une astérisque au texte de loi. Offre soumise à conditions, sous réserve d'éligibilité par une vieille connasse homophobe dans la limite des stocks disponibles, sous réserve d'accepter un enfant qui n'aura pas été choisi par les couples hétéros et de ne pas l'habiller comme Edith de Préto. Et l'égalité des chances dans tout ça, hein? Un enfant atypique devrait avoir les mêmes risques que les autres de tomber dans une famille d'extrême droite ou d'être suspendu à un balcon pendant que son père joue à Pokémon Go. De quoi avons-nous peur vraiment? Non, le seul problème des enfants élevés par les homosexuels, c'est qu'à 4 ans, ils s'habillent mieux que nous tous réunis. Alors, les propos tenus par cette dame ont été condamnés par le président du département de Seine-Maritime, mais les discriminations subsistent encore, puisque le nombre de couples homosexuels ayant adopté depuis 2013 est inférieur à 10. En signe de protestation, j'ai décidé de me faire adopter par un couple de lesbiennes. Par contre, je suis hyper atypique, je préfère vous prévenir, j'ai un sein plus gros que l'autre et quand je pleure, je fais de l'aérophagie. J'ai aussi des besoins hyper spécifiques, notamment en argent et surtout énormément d'amour à donner à mes futures nouvelles mamans. Maman, désolée, je sais que tu comprendras. Et pour la marche des fiertés le 30 juin, merci de venir avec des bonnes chaussures car visiblement la route est encore longue.
Joli. Allez, ça vous tient.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Budapest, le film sort le 27 juin. Un vrai délire qui va faire du bien. Une salle climatisée quand il fera chaud. Tout est bien, ça tombe bien. Il
faut ouais, aller, ouais. Ça va être bien.
Le bon film qui est totalement déjanté. Alors, tout à l'heure, on a peut-être fait un tout petit peu peur en parlant de scènes qui pourraient être choquantes. Ce reste un film d'ado aussi, quoi.
Ouais. Peut-être franchement.
Pas. Voilà, en dessous de 10 ans, ça me paraît pas très raisonnable.
Non, en dessous de 10 ans, ce serait fou.
Non.
Au-dessus, à 11 ans, ça peut y aller.
Non.
C'est vraiment un film pour les 11, 30
ans. Je serais sur du 14-15, personnellement, quand même.
Du 14-15, parce que ouais.
On est sur de l'ado.
Ouais, ouais.
Il y a une interdiction ou pas?
Non, c'est pas réglementé. Mais parce que quand même, c'est
pas réglementé.
Ouais. Oui, mais s'il n'y a pas des scènes folles en termes de foufoule, de... Je ne sais pas comment l'appeler.
Jonathan, en tant que papa, je ne laisserai pas un enfant de moins de 12 ans.
Mais tu as raison.
Oui, de moins de 14.
Tu as raison.
Ouais.
Tu as totalement raison. 12 ans. Faut rester chez soi.
Non, il y a Indestructible si tu veux.
Oui, Indestructible, voilà. La semaine d'après.
Mais Budapest, par contre, tout le monde au-delà peut y aller et se marrer.
Ça,
non, mais,
ça
non, mais vraiment,
enfant,
vraiment
hein.
Ça reste bon enfant. Et encore une fois, c'est une histoire vraie. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. On va en parler avec lui tout à l'heure parce que voir son histoire se dessiner comme ça au cinéma, être incarné par un tel personnage et sujette justement à débat, à question, est-ce bien raisonnable d'organiser un week-end de d'éprave totale, de partir en vrille totale.
Mais je me demandais si vous aviez été faire un week-end comme ça.
Moi non.
Ah bon?
Mais Manu, oui. Manu
l'a testé. Tu balances direct.
Ah ouais, ouais, moi je suis comme ça, je suis une balance.
Il a été éprouvé le rôle en fait. C'est ça.
Il a été éprouvé, il avait besoin de savoir de quoi il parlait. Moi j'aurais rêvé le faire. Évidemment, et je l'ai pas fait, et donc du
en
coup,
bon
oui,
père
il a
de
fait,
famille.
C'est ça, en bon père de famille, proche de.
Ah bon?
Voilà, j'ai pas le mot, et c'est pas grave.
T'as pas d'enfant, surtout?
J'ai surtout pas d'enfant, j'ai pas de vie, je suis seul. Non, ce que je voulais dire, il a testé la calache, mange de la la viande, mais je vais bientôt arrêter grâce à toi. Il a tiré à la cage, il a truc au tank, il a passé
fou,
la soirée menottée à une femme de 150 kilos. Il a bu de la vodka dans ses seins, comme une petite table basse, en fait, paraît-il. C'était étonnant.
C'est dingue.
C'est un côté Ikea aussi.
Non, mais
c'est bien, c'est féministe, ça.
Mais je vois pas. Oui. Non, c'est on parlait de la morale du film.
Moi, je parlais de la vodka de cette manière.
Oui, c'est vrai. Non, mais je vois pas où est le plaisir, pardon, là-dedans.
Mais parce qu'on s'en rend pas compte. Il y a des gens, je comprends, moi, l'envie. Moi, j'ai été un enterrement de vie de garçon, ok. J'aurais rêvé vivre celui du film plutôt que vivre celui que j'ai vécu, vu qu'on aime visiter le musée de la photo à Stockholm. Voilà. Donc, excusez-moi du peu. On a envie un peu de. Ouais,
c'est bien ça.
Mais il y a peut-être un entre-deux, en fait, entre le musée de la photo à Stockholm et la.
Tu sais quoi, c'est bien de vivre. Je comprends les gens. Oui, non, mais après.
Fous la paix à ce micro.
Mais est-ce que j'ai besoin de. Vous me comprenez pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est. Oui, t'as raison qu'il y a un entre-deux. De toute façon, nous, on n'est pas forcément la cible.
Après, dans les films, l'entre-deux, c'est pas marrant.
Non, mais c'est sûr.
Mais effectivement, je comprends.
Il vaut mieux
aller
dans la caricature et dans l'exagération.
Non, mais il parlait de son expérience personnelle.
Mais après, dans mon expérience personnelle, franchement, j'aurais préféré conduire un tank que le musée de la photo. Clairement. Parce qu'après, on a bu un mojito. Mais
après, pardon,
et il était 11h.
Enfin, on va dormir, hein. Il faut se poser. Homer, sort de ce corps. Homer Simpson qui est passé par là. Je ne sais pas pourquoi.
Il est là, elle est inside. 50 minutes.
Non,
inside.
La vraie question, c'est pourquoi avoir ce besoin d'enterrer une vie de garçon.
Mais je ne sais pas.
Comme
c'est un prétexte.
Comme si le fait de se marier interdisait après tout amusement,
c'est
toute soirée ou tout plaisir.
C'est triste en fait.
Non, mais il est fou. Ouais. C'est vrai que il est fou le concept. Mais est-ce que ça ne viendrait pas des anglo-saxons, ça, cette
un petit peu peut-être.
Non, mais c'est un rite de passage. C'est un rite de passage. Tu peux te dire, pardon, je veux m'en souvenir.
Alors les filles, elles font quoi pour enterrer leur vie de jeune fille?
Non, c'est vrai. Les chapelles, ces trucs, on les connaît, les trucs.
Elles se font des gommages.
Mais c'est pas vrai. Vous
bien sûr que si.
C'est
pas non. Non, mais excusez-moi.
Non, ça c'est un cliché.
Je connais.
Alors, j'ai fait des enterrements de vie de jeune fille. Franchement, on n'a pas été au grand.
Vous
avez fait quoi, Léla? On a fait
une sorte de traversée de Paris. On a fait un marathon. On s'est arrêté dans tous les bars et on est rentré. On était ivre mort.
Vous avez fait chelé ton.
Très bien. Comme quoi, il n'y a rien de sexiste en fait de montrer des gars qui se mettent minables. Alors,
mais c'est pas ça qui est sexiste, c'est de voir des femmes à Walp.
Mais à Walp.
Non, mais à ce moment-là, pourquoi n'allez-vous pas dans des soirées gogo danseurs avec des mecs?
Parce que chacun fait ce qu'il veut. Non, parce qu'on n'est pas obligé. C'est pas parce qu'il y a un schéma pour les hommes et encore. C'est pas le vrai schéma. Il y a plein de garçons autour de vous qui vous diront qu'il faut des enterrements de vie de garçons. Ils vont pas avoir des filles nues. Ouais. Et de même que les filles, elles vont pas forcément au hammam ou
personnellement,
ça, un
soin de visage. j'ai fait le plus bel enterrement de vie de garçon pour mon mariage. Je suis parti avec ma femme.
Oh là là,
qui
est chiant.
C'est nul.
Oh, Walt Disney, ça
dans le
score.
Non,
on a dit on va le faire, on va le faire tous les deux.
Récent,
on est parti en vrille, mais
vous êtes si heureux
à deux. Tu pouvais pas vriller comme tu t'aurais pu vriller avec tes potes.
Bah si, normalement tu peux vriller aussi avec ta femme et ton mec.
Moi je
vais foutre
avec ma femme, tu vois, c'est mon meilleur pote.
Tu couches avec tes potes, toi.
Tu es bien passé pour savoir.
Oui, je voulais oublier, arrête.
On va continuer de parler de Budapest. Le film sort le 27 juin, mais la bande originale d'abord d'Alix Poisson et de Jonathan Cohen. On va commencer par vous. Pardon, Alix. T'as oublié un titre?
J'ai oublié de vous filer un titre.
Ah bon?
Ouais.
Ah, c'était en 2015. T'as oublié 2015. On va commencer par 2003. 2003, Jonathan Cohen, écoutez.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé,
bien sûr.
Pour le meilleur, ça m'oublie.
Le bien sûr était trop.
Ouais, bien sûr.
Et pas sincère. Du tout.
Non, mais surtout, je suis étonnée que lui ait choisi ça, c'est bon.
Oui, parce que c'est l'époque et c'est.
Ça rappelle du souvenir.
Et c'était le bac philo.
Et c'était le bac philo.
Mais elle est partie trop vite.
Oui. Non, 2003, c'est le conservatoire, c'est ça?
Exact.
Vous tentez le conservatoire.
On écoutait ça, t'écoutais ça au conservatoire.
C'était totalement le conservatoire. Mais c'était une manière de dire le poing levé, il y avait un petit truc avec le conservatoire.
Ouais, parce que 1500 personnes se présentent, on en garde 30.
Ouais.
Et vous faites partie des 30.
Exact. Des 15 mecs et 15 nanas.
Et ouais, on a fait ça.
Et vous dites à cette époque-là que vous étiez complètement ignare. Le théâtre, c'était vraiment un univers, mais complètement
déconnu.
C'était
une pièce, un Molière en troisième qu'on a saccagé pour moi le théâtre à l'époque. Et du coup, voilà, effectivement, je me suis cultivé. Comme beaucoup d'autres gens au conservatoire.
Non, c'est d'ironie.
Non, c'est vrai.
Ça apprend énormément.
Mais tu te cultives, tu apprends.
Bah, t'es tout petit quand t'arrives quand même.
T'es tout petit, vraiment.
Donc, tu connais pas tant de choses
et
que ça.
Et t'as accès à tout, t'as une bibliothèque, c'est incroyable.
Donc c'est pas uniquement une culture théâtrale.
Non, culture de tout, cinéma, tout, mais vraiment.
Enfin, pardon, les bibliothèques, elles existent au bahut.
Ouais, mais on est vraiment.
Tout à coup, t'as accès à tout. T'as accès à des cours de danse, t'as accès à des cours de chant, t'as accès à. T'as des places de théâtre gratuites, c'est un truc de malade.
Est-ce que le fait d'être dans une espèce de comparaison avec les autres du conservatoire, on se sent obligé de se mettre aussi à niveau en disant mais lui il connaît
mais tu peux pas imaginer le complexe d'infériorité que j'ai eu par rapport à mes camarades qui étaient déjà ils avaient envie de faire du théâtre depuis qu'ils avaient 8 ans, ils avaient vu 1000 pièces, moi j'étais là, j'avais vu Scarface, enfin rien à voir, on était dans deux planètes différentes.
Qu'est-ce qui vous
je sais pas ce que j'ai
qu'est-ce qui vous a donné envie
de quoi
de jouer et d'aller
mais je n'ai pas encore la réponse et c'est tu sais et c'est une des premières questions qu'ils te posent, pourquoi vous faites du théâtre, je ne savais pas quoi répondre.
Mais parce que quoi, vous étiez le rigolo de la classe.
Oui, il y avait ça, mais tout d'un coup, tu te retrouves
c'est
à passer un concours
en général,
et tu sais, et tu juste, c'est en toi, voilà.
C'est et c'est truc. Muriel Mayette qui est là aussi pour vous, parce que vous en parlez pas mal dans les interviews. À chaque
Muriel Mayette, c'est le maître. Ça a été le maître vraiment de beaucoup de gens.
On l'a eu tous les deux,
ouais. Il y a eu un avant et un après Muriel Mayette dans la manière d'aborder le jeu. Vraiment.
Et dans la manière de c'est con, ça paraît, mais de penser son jeu. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux pas juste jouer à l'instinct, il faut que tu aies une réflexion sur ton jeu.
Ça veut dire quoi,
il y a des gens qui t'aident à avoir ça.
Penser le jeu, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'en fait, toi, tu crois que parce que tu peux exprimer des émotions assez facilement, ça va suffire, sauf qu'un jour, tu te retrouves à jouer une pièce de théâtre 200 fois, et qu'il y a un soir où tu dis, là, je l'ai pas. Voilà, là, j'ai pas l'émotion, et puis j'ai pas forcément envie d'y aller, parce que je suis fatiguée et tout ça. Et si t'as pas quelqu'un qui t'a appris à construire un personnage, à avoir, elle appelait ça une valise, des choses que tu mets dans ta valise, imaginaires, des outils, des fois ça pouvait être des tableaux, des chansons, tout ce qui pouvait nourrir ton inconscient, ton imaginaire, qui font qu'à un moment, et puis une vraie pensée, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui réfléchissait sur les textes, qui décortiquait les textes, et qui nous a appris à faire ça, et qui fait que tu peux arriver tous les soirs en te disant, ça va, je suis armée, je peux défendre ce personnage.
C'est joli l'idée de la valise avec des accessoires auxquels on peut se raccrocher. Ouais. Alors à ce moment-là, pendant que vous écoutiez Jonathan Amel Bent, eh bien Alix Poisson, écoutez...
Ouais. Elle est plus classe.
Elle est plus rock. Elle est plus rock, surtout.
Pas de jugement, d'ailleurs.
C'est l'indétrônable.
Patti Smith, comédienne aussi d'ailleurs.
Bien sûr, poétesse, comédienne.
Ouais. Et j'ai pris votre sortie du conservatoire, Alix. Comme ça, on est un peu décalé avec Jonathan. Jonathan, vous avez, à la sortie du conservatoire, vous enchaînez beaucoup de rôles classiques.
Ouais.
C'est vraiment où vous trouvez, où vous avez envie d'aller en tout cas.
Ouais, et puis c'est comme ça que ça se présente aussi, c'est rigolo. Enfin, moi j'avais une envie folle de théâtre à cette époque-là, vraiment. Et puis c'est arrivé très vite, c'est-à-dire qu'il y a Philippe Adrien qui est devenu un peu mon papa de théâtre et qui m'a engagé dans des spectacles. Et puis après d'autres, Mathias Langhoff, tout ça. Et puis moi il y avait un truc marrant, c'est que quand je suis sortie du conservatoire, tout le monde me disait, comme si c'était une espèce de truc un peu magique, tout le monde me disait, alors à l'image ça ne fonctionnera pas tout de suite. Je te le dis tout de suite, ça n'ira pas.
Oui, mais alors pourquoi?
C'est une violence inouïe.
Il y avait
un mec, tu te rappelles de Tristan conservatoire, ce gars qui on savait pas ce qu'il faisait, il rangeait les DVD, les machins, enfin on sait pas. Et ben un jour il m'avait dit, bon toi il va falloir que tu t'y fasses jusqu'à à peu près l'âge de 30 ans, tu feras les bonnes copines à la limite, mais tu feras pas de rôle principal. Ça calme et en même temps ça n'était pas tout à fait faux, et j'ai compris beaucoup plus tard pourquoi. C'est-à-dire que moi j'avais peur de la caméra déjà, mais en plus la caméra c'est un truc étrange, ça attrape quand même tout, c'est-à-dire ça vole tout, ça attrape tout, et s'il y a un truc en vous qui est pas, je crois, qui n'est pas un peu en
aligné,
en adéquation, il y a quelque chose qui est discordant et ça ne peut pas imprimer la
véhicule. Ça ressemble à une réflexion que pourrait faire un directeur de casting avec dire à un garçon, t'as pas le physique du playboy, t'as pas le physique du gentil.
Ouais, mais c'est un peu plus que ça.
Tu seras toujours le
c'est un peu plus que ça. Moi, j'avais 25
service.
Ans, mais j'avais le physique de quelqu'un de plus âgé à l'époque.
Mûr.
Oui, et j'avais une voix beaucoup plus grave parce que je fumais beaucoup. Il y avait un truc qui ne collait pas. Il y avait plein de castings où on me disait, mais vous n'avez pas 25 ans, c'est pas possible.
Si,
tout à fait. Non, c'était très bizarre. Il y avait un truc qui ne collait pas.
Ce qui est fort, c'est qu'on te dit la même chose aujourd'hui encore.
Tu
n'as pas 25 ans.
Tu n'as pas 25 ans.
Tout à fait. Mais là, ça me rend triste. Voilà.
En 2009-2010, Alix, vous écoutiez. The
Pony's Run. Ah oui.
Ça va, la fiesta quand même.
Oh, c'est Patti Smith, c'est pas triste. Tu connais pas
Léonard Cohen, c'est tellement beau.
Ouais.
Eh ben, c'est...
Cousin Kisses Deep.
Quelqu'un de ma famille.
C'est ton père.
Il y a un nombre de Cohen, c'est incroyable.
C'est incroyable. C'est incroyable. Très souvent, c'est dans le dentaire.
Comment massacrer une chanson.
Mais quel dentiste, ça va être... Ouais, tes molaires.
Je tiens à préciser que cette blague antisémite vient de Jonathan Cohen.
Oui, elle est faite par moi, elle est validée par le Bad-Din. Allez, c'est bon. Pas de problème.
Et Kobe Comic n'a rien dit, il n'a pas dit que c'était un truc pompé, on est d'accord.
Bon, non, ça va. Bon, ça va, c'est la double validation.
Voilà, double.
Et à cette époque, vous, Alix, vous incarnez Véronique Courgeot. On l'a évoqué tout à l'heure.
Ça refroidit.
Ce téléfilm de Jean-Xavier de l'Estrade.
Ouais. Un frigo, ouais. Un Courgeot.
Cette femme, donc, voilà, cette mère de famille qui a été condamnée pour avoir. Congelé
pour avoir tué ses
nouveau-nés,
ses enfants, bébé à la naissance, ouais. Avoir fait une grossesse. Ouais.
À cette époque-là, vous parliez tout à l'heure de votre physique, de votre rapport au corps, à votre voix. Ouais. Qu'est-ce qu'on se met en tête pour aller rencontrer un réalisateur pour le convaincre qu'on est Véronique Courgeot?
C'était surtout très drôle parce que moi j'ai rencontré la directrice de casting. Donc à l'époque j'avais 30 ans, Véronique Courgeot en avait 40. Moi j'étais blonde, j'avais les cheveux en dessous de l'épaule. Elle était brune et je croise cette femme et Dieu merci ils sont là pour nous ces jours-là et elle me voit un jour et on se croise, je sais plus, à une avant-première ou je sais pas quoi.
Tu vas directeur de casting.
De cette femme, ouais. Nathalie Chéron, que je remercierai jamais assez, et qui me regarde et qui me dit « Alors là, il y a un truc, je suis en train de faire un truc sur un film sur Véronique Courgeot et il faut absolument que tu passes des essais. » Et moi, j'avais tout à fait suivi l'affaire et je lui dis « Enfin, Nathalie, t'as craqué ou quoi ? J'ai 30 ans, elle en a 40, je suis blonde, elle est brune, enfin, ça n'a aucun rapport. Enfin, » Et elle me regarde, elle me dit « Attends. » Elle me dit « Débrouille-toi, ça c'est ton taf, débrouille-toi pour arriver de telle façon que le réalisateur se dise ok, il y a un truc, et après moi mon travail c'est d'avoir le rendez-vous.
Donc on est d'accord, vous êtes quand même une comédienne qui dit à une directrice de casting qui lui propose un rôle,
je suis pour déplacer les gens, mais là tout à coup c'était tellement loin que je me disais je me suis teint en brune, je suis allée au rendez-vous teinte en brune, c'est drôle, je suis arrivée au rendez-vous avec des fringues trop grands parce qu'elle était assez carrée, enfin voilà, et du coup il m'a vue et il a dit ok d'accord, on va passer les essais.
Alors ça c'est la dimension physique, c'est la métamorphose, mais alors après, comment on vit avec le personnage? On incarne cette femme que tout le monde connaît, dont tout le monde connaît l'histoire.
Et que tout le monde déteste.
Qu'est-ce qu'on a
parce qu'à l'époque, qu'est-ce tout le monde qu'est-ce qu'on apprend d'elle? Elle a beaucoup souffert parce que il y avait une. Oui, tout le monde la traitait de monstre et de parce qu'un infanticide, c'est le tabou ultime de la société.
C'est ça.
Donc,
qu'est-ce qu'on apprend à incarner un personnage comme ça réel?
On fait comme avec tous les personnages, c'est-à-dire qu'on la défend parce que même le monstrueux, de toute façon, on peut le comprendre. Et nous, on a un devoir d'empathie avec les personnages.
Ouais.
Donc voilà.
Alix, on se connaît pas que pour parler de promotion, on se connaît notamment pour des associations que vous soutenez pour la défense de l'enfance maltraitée. Évidemment, je veux faire l'enchaînement avec ce rôle-là. Est-ce que c'est ce rôle-là qui vous a fait penser à être marraine, à défendre les enfants maltraités, les enfants battus? Vous aviez ça déjà en vous depuis longtemps? Vous êtes une militante, je tiens à le dire, au bon sens du terme. C'est-à-dire que vous battez au même titre qu'Andrea, est-ce qu'on peut le faire aussi
Pour que, comme vous aussi, un petit peu.
Mais comme moi aussi, mais c'est vous l'invité. pour ne pas qu'on laisse trop facilement des lois oublier l'importance, la valeur de la vie d'un enfant, d'arrêter aussi les prescriptions pour les viols, d'oublier toute forme de violence, d'ailleurs, les enfants. Violence faite aux femmes et ainsi de suite.
Tout à fait, ouais. Je sais pas trop. Je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi, parce que pour des raisons à la fois personnelles et puis aussi, comme tous les gens qui s'engagent là-dedans, il y a un truc aussi civique, c'est-à-dire que je.
C'est de bon sens, presque.
C'est-à-dire que les enfants, c'est quand même le monde de demain. Donc, à un moment, si on fait semblant de pas voir que ça va pas bien, on peut pas s'étonner après que le monde aille très mal. C'est-à-dire que là, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis est quand même un truc hallucinant.
Qu'on sépare les enfants.
De mettre les enfants en cage.
De mettre les enfants en cage dans des déserts texans, alors qu'il fait 38 degrés. Enfin, tout ça, ça fera des gens qui seront fondamentalement traumatisés et qui certainement deviendront violents.
Quel genre de monstre il faut être pour mettre des enfants en cage?
Mais c'est pas tant de les mettre en cage, en fait, c'est de les séparer de leurs parents. Tu vois, ça va. Cage, tu les mettras en cage, tu les mettras dans une hutte ou je sais pas. Ou peu importe, mais tu les sépares, quoi.
C'est un trauma initial, quoi. Donc, moi je pense que c'est hyper important. Après, c'est des petits grains de sable, ce qu'on fait. Mais les associations, l'Enfant Bleu et d'autres, font un travail extraordinaire, ouais.
Je tenais à souligner votre rôle aussi, parce que vous le faites.
Et je suis pas toute seule, il y a Valérie Carcenti.
Non, vous
n'êtes
pas toute seule, mais voilà. Moi je tiens à le dire à ce micro. Vous m'envoyez des textos, vous me dites et pour l'association, et qu'est-ce qu'on peut faire, et je voudrais qu'on parle de la sauce, et machin. Non, mais moi ça me touche, ça m'émeut. Ça me pousse même aussi à prendre la parole et à prendre des positions qui sont même carrément reprochées par d'autres téléspectateurs, d'autres auditeurs en disant « mais faites votre métier d'animateur et arrêtez de nous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut penser ». Alors que pour moi, ce sont des valeurs tout simplement et que c'est même pas une position politique.
Un tout petit peu, voilà, moi la première fois que j'ai fait votre émission pour l'association, n'oubliez pas les paroles, je donne un exemple très concret, le week-end d'après, le standard de l'association a explosé. C'est-à-dire qu'il y a eu trois fois plus d'appels de gens qui, il y a une grand-mère qui a appelé en disant je n'osais pas le faire, mais comme j'ai vu Alix Poisson qui parlait de l'enfant bleu, je voudrais dire que j'ai une suspicion d'enfant maltraité dans ma famille. Donc si ça peut servir à ça, moi je dis tout est bon à prendre.
Alors je vais vous dire une chose, il y a eu une seule fois, plusieurs fois, je donne le numéro de téléphone pour les enfants battus, en disant que c'est le 119 pour tous les enfants qui veulent parler, parce que l'important aussi, c'est de ne pas garder le silence. Le nombre de lettres envoyées en disant lâchez-nous, nous faites pas la morale, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis un jour, je reçois une lettre d'une maman, qui me dit simplement merci, ma fille de 9 ans est venue me parler après l'émission.
Ben voilà, ben y en a une qui a été sauvée.
Voilà, au moins une. Allez, retour avec vous, Jonathan Cohen, et dans ces années 2009-2010 où vous écoutiez Pony Pony Run Run.
Oh, c'est bien ça. Oh, c'est bon ça.
Hey you. Ah, en plus, vous comprenez les paroles.
Bien sûr, moi je suis totalement bilingue.
Ça se voit dans le film d'ailleurs.
C'est fou, voilà, cet accent dans le film que j'en avais.
Et vous, en 2010, on vous retrouve dans la série Les Invincibles.
Oui.
Une série absolument géniale qui était diffusée sur Arte.
Arte.
Qui suit en fait les aventures de quatre anti-héros avec des anti-pouvoirs. Ouais. Alors parlez-nous de votre personnage.
Tellement drôle comme pitch déjà.
Ouais, mais c'est génial.
C'était quatre gars qui avaient décidé de faire un pacte ensemble. Ils avaient les quatre la même montre qui sonnait à la même heure pour faire en gros des actes forts comme le premier, c'est-à-dire quitter leur nana et reprendre leur liberté.
Décidément, c'est une récurrence dans ta vie.
Bah oui, bah t'es pas encore résolu le problème. C'est adapté d'une série québécoise qui est extraordinaire, qui est un énorme hit là-bas. Et on s'est éclaté à faire ça. Et moi, mon personnage, il s'appelait Hassan. Et il était, c'était.
Timide.
C'était le grand timide et surtout, il parlait pas trop. Bizarre pour moi de pas beaucoup parler. Et du coup, c'était tout dans les yeux et il mentait à tout le monde. Ça, pour le coup, c'est moins.
C'est ça, c'était super. L'antipouvoir ou il y avait un autre antipouvoir?
Non, en fait, vous n'avez pas vraiment des pouvoirs.
Ah, d'accord.
Voilà, okay. C'était des gens normaux.
D'accord.
Clairement, c'était le concept.
Pour des...
Mais il y avait une bande dessinée, tout ça. Donc, c'est pour ça les héros. Et donc, oui, lui, il mentait à tout le monde et il poussait le vice tellement loin et
Il y a jusqu'à un faux mariage. Hein. Avec une amitié. Ah oui.
Une amitié qui quand même se détruit au fur et à mesure des pactes et des mensonges.
Mais on vous a retrouvé aussi dans Hero Corp, c'est ça? Yep. Aussi, dans le même genre, des anti-héros, quoi.
Là on est dans du débile, hein.
C'était quoi vous déjà dans Hero Corp? C'était quoi dans Hero Corp déjà vous, votre.
C'était le seul qui a pas de pouvoir.
Ah oui, c'est pour ça.
Et qui montait une compagnie, de super-héros.
De VG.
Il a plusieurs personnages imaginaires, tout ça, donc c'était un bon débile
aussi.
C'était
très drôle cette
série. On va revenir justement à l'enterrement de vie de garçon. Budapest, le film sort le 27 juin et Aurélien Boudier est à ce micro. Merci Aurélien de venir nous parler de votre.
Merci Jonathan.
Je l'annonce toujours un peu. Comme des vuvuzelas.
Oui.
Voilà. Ah, mais moi j'ai entendu autre chose.
Attends pour moi, j'ai loupé le
vuvuzela.
Tu devrais faire durer plus longtemps ta vuvuzela. Vous êtes l'un des deux cofondateurs de Crazy Voyage, celui qui a le courage donc de se présenter. Vous avez inspiré ce
l'autre
film.
L'autre dort encore.
L'autre travaille.
Budapest.
Il est en taule.
Tout à l'heure, je demandais à Alix et Jonathan quelle était la limite entre la vérité de votre vie et le film. Vous qui avez vu le film. C'est totalement tout ce que vous avez vécu, au-delà évidemment, là on s'est tourné d'une manière humoristique, mais est-ce que tout est vrai?
Non, tout n'est pas vrai, bien heureusement, on a quand même une société française, on est régi par la loi française.
Vous payez des impôts en France?
On paye des impôts en France, bien évidemment.
C'est pas évident pour tout le monde, hein.
Pour nous, ça allait. D'accord. On est, vous avez évoqué notre histoire. On est quand même
total.
Les enfants de la République. On a bénéficié de l'éducation française. Mm-hmm. Ça nous a permis de réussir. Donc, on est très, très fiers de payer.
Ça, c'est vrai, ce côté boursier, ce côté.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir notre équipe, nos bureaux en France. On n'envisage pas du tout d'enlever ça. En revanche, pour revenir à votre question, ce qui est très vrai, c'est on se reconnaît beaucoup dans les 30 premières minutes du film sur comment on a eu l'idée. L'idée de faire la fête à l'étranger parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément bien accueillis pour faire la fête en France. Grâce à nos précédents boulots, on avait eu l'opportunité de repérer des endroits un peu plus sympas. Je pense à Barcelone, à Budapest. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de partir.
Les endroits sympas, ça veut dire là où la prostitution, l'alcool et les drogues sont autorisés?
Pas du tout. On n'est pas dans la drogue ni la prostitution. Non, non, non. Mais un truc très simple, hein. C'est là où, en fait,
Vous enlevez la prostitution et la drogue dans le film, il y a moins d'effets comiques, hein.
Mais je suis pas d'accord. On a encore revu le film ensemble ce soir.
Il reste les chars d'assaut.
Il reste les chars d'assaut, la calache.
C'est vrai, il reste la calache.
Non, mais regardez la différence entre le début du film. Il n'y a pas du tout de soirée, ils rentrent même pas en soirée.
Oui.
Et après, ils peuvent aller dans toutes les boîtes. Ouais. C'est ça la grosse différence. Oui. En fait, dans les autres pays, on est accueillis. Si on est cinq garçons, on dit on veut faire la fête, on nous laisse rentrer.
Oui.
À Paris, on veut faire la fête entre mecs et rencontrer du monde, on nous laisse pas rentrer. Et pour un enterrement de midi, il faut être accompagné.
Ouais.
Mais c'est pas le thème de l'enterrement de garçon d'être accompagné. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée. Puis après, ce qui est très vrai dans le film, c'est tout le côté business, comment on a fait le business plan. C'est Jonathan qui a ce rôle-là, qui passe une nuit entière.
Bah, nous, vous êtes lequel des deux? Vous êtes Jonathan dans le film ou
non? Il y a
Manu?
Pas de.
Oui, clairement. Bah, dis-le, t'es content.
Non, on a. Ça a été bien
c'est
écrit.
Jonathan,
j'ai
Jonathan.
Un petit côté un peu plus foufou, donc je me rapprocherai plus de Jonathan, mais clairement, c'est très caricaturé dans le film. Je pense que c'est pour un effet comique.
Revenons à la réalité de l'enterrement de vie de garçon. Alors pardon, hein, c'est pas contre votre business. Quand je disais que je ne comprenais pas, on se demandait d'où venait cette mode-là. Est-ce qu'elle est anglo-saxonne, elle est américaine, elle est ancestrale, ou c'est récent?
Eh ben, en fait, je crois que on a beaucoup réfléchi sur le sujet au moment de lancer la boîte, et puis on a vu que c'est une tendance qui marche très bien. Je pense qu'il y a
ça
trois facteurs. Ça vient du 18e siècle, enterrer sa vie de garçon. Mais
d'accord.
Je crois que ça a rien à voir avec le concept actuel.
D'accord.
Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on se marie plus tard. Donc on se marie quand on a environ 30 ans. À 30 ans, on est déjà installé, on voit plus tous ses potes, on réunit plus une dizaine de potes tous les week-ends autour de soi. Donc il faut une occasion importante pour faire ça.
Puis on a de l'argent, puis on a des moyens.
Exactement, notamment des garçons s'y prêtent bien. On ajoute à ça l'essor des low cost et Schengen, donc l'ouverture des frontières, c'est beaucoup plus facile de faire un city trip le temps d'un week-end. Donc on a plus le besoin de réunir ses potes, c'est plus facile et on a plus d'argent. Ouais. Donc ça a permis l'essor.
Quel est le programme d'enterrement de vie de garçon type?
Question de budget.
La formule de base.
Non,
la
formule de base.
C'est ce qui est très important, en fait, c'est de se.
Tarama, je crois. Hein. Deux tostotarama, ça s'accueille.
Non, ce qui est très important, c'est de se réunir. C'est le voyage, c'est donc de réunir un groupe de potes.
Non, mais c'est genre, on part le vendredi soir.
Exactement, on part le vendredi, transfert. Dès l'aéroport, on est accueilli par une guide locale, ce qui est très vrai, ça permet de cadrer les groupes.
C'est forcément à Budapest que ça se passe ou il y a d'autres spots?
Non, on a 70 destinations aujourd'hui à travers l'Europe, donc on va avoir Budapest, Barcelone, Lisbonne, Prague. L'Europe centrale et l'Europe du Sud plaisent beaucoup.
C'est moins cher?
C'est moins cher, et puis c'est dépaysant.
Ouais.
On a la plage et la fête en Europe du Sud, et le soleil, parce qu'en ce moment, on n'est pas forcément gâté à Paris.
Tu as plus de chances de ne pas croiser ton directeur ou ton pote du bureau dans la boîte, dans la boîte non plus.
Et donc, en Europe centrale, on va avoir tout ce qu'il y a. On va avoir les joujoux de G.I. Joe. On va pouvoir jouer avec.
Alors justement, continuons. Vendredi soir, on arrive, une guide nous reçoit.
Dans une limousine. Il est à fond, la guide.
Non, mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour savoir le programme.
On arrive, une limousine va vous chercher.
Ouais.
On parlait du striptease, vous évoquiez le striptease. Le striptease est une tradition, mais c'est pas un truc qui nous éclate.
Non, ouais,
c'est pas un truc qui nous éclate. Au moment de se marier, on n'a pas forcément envie d'aller dans un strip club où on va se retrouver dans une salle privée. C'est un peu glauque.
Pas de langue de bois.
Non, mais justement, donc nous, on a repensé le striptease de ce point de vue-là, et on va le mettre plutôt dans une limousine en faisant un moment un peu comique, un faux contrôle de police qui en fait se révèle être un striptease. Mais là, on n'est pas enfermé dans une salle, on a nos 10 potes autour, et donc là, c'est un show, c'est un souvenir entre potes, plus qu'un truc un peu glauque. Donc c'est comme ça. Donc
c'est ce qu'il y a dans le film.
Exactement. Mais c'est une activité
qu'on
vraiment.
C'est en option, on peut se dire que.
Il n'y a rien d'obligatoire. Tout est à la carte. C'est sur mesure, on doit l'adapter aux besoins de chaque marié. Bon, j'avoue que ça marche très bien quand même. Mais ensuite, on va avoir une activité. Voilà. On est de chars d'assaut, tir à la calage. Ou alors, encore, pour réinventer striptease.
Comme dans le film.
On va faire un match de foot contre 5 stripteaseuses. Puis après, on va mélanger les équipes. Avec, on doit faire une passe décisive.
Est-ce qu'on
fille.
Peut tirer à la calage sur une stripteaseuse?
Mais tout ça. Non, attendez, tout ce que vous racontez est dans le film.
Exactement.
Ouais. Ah, non, mais c'est un travail de recherche. C'est inventé, hein.
Après, on a Simon Monteiro qui a coécrit avec Manu, ouais. Est un ami d'enfance. Donc, on l'a fait voyager, on a organisé son propre VG à Budapest, donc le mec était bien informé.
Aurélien, vous ne pouvez pas dire, que à aucun moment une prostituée va proposer ses services à vos clients. C'est pas possible.
Jamais de prostituée, jamais de drogue.
Mais c'est pas possible.
Mais si, c'est possible. Mais
on peut déjà, pas, on peut
c'est un truc la prostituée ou quoi
la, non, la, il... non, mais la prostitution n'est pas légale en Hongrie. Hein. Déjà, voilà. Donc ça, on tire un trait.
Ça, c'est excellent.
Voilà, c'est réglé. Voilà.
Et, non, si vous, c'est et les stripteaseuses, elles sont payées selon quels minima sociaux ? Ceux du pays ?
Elles sont très bien payées. Et là où
c'est quoi très bien payées ?
Bah pour 10 minutes, elles touchent environ entre 150 et 200 euros. Elles ne déshabillent pas, elles n'ont pas le droit d'être touchées.
Elles touchent plus que nous.
C'est, hein. C'est des danseuses.
Est-ce que vous pensez...
Je suis moins volé.
Attention, hein, Aurélien. Les groupes qui sont les plus osés envers les stripteaseurs, ce sont les groupes de filles. Parce qu'elles sont pas habituées à ce qu'on leur dise non, en fait. Ouais.
Juste une question, est-ce que vous pensez que le film peut faire du bien ou du tort à Crazy Voyage ?
Je pense que ça va faire du bien, parce que déjà, c'est, on a un marché à évangéliser, les gens ont besoin de connaître.
Évangéliser ?
Ah, oui, tout à fait. Non, mais on prend toujours l'exemple du wedding planner. Les gens savent qu'un wedding planner
existe.
Les gens savent qu'un wedding planner existe, et ils connaissent pas notre concept. Donc, ce serait déjà une belle victoire. Et puis après, il y a aussi tout l'aspect entrepreneurial du film qui est abordé et très bien joué par
la réussite de Gamin.
Voilà, ça fait plaisir de montrer que c'est on fait pas que la fête, c'est un gros boulot pour nous.
Merci Aurélien Boudier.
Merci.
Avec plaisir.
Tanguy Pastureau, le président Macron, bonjour. Lundi a recadré un collégien qui l'appelait Manu.
Lequel l'avait appelé Manu, mais ça, seul Gérard Collomb, un soir de fiesta, a le droit de lui dire, pas un jeune déboussolé. Alors, seul souci, la séquence a été diffusée dans le monde entier, et ce jeune qu'on appellera pour préserver son anonymat, Nicole Belloubet, est harcelé par ses camarades. C'est vrai.
Salut les bienvenus, avec les
Lacanouillages,
Alison Moulin, Tanguy Pastureau, Daniel Morin, Albert Algou et nos invités.
Merci.
Et nos invités, Alix Boisson et Jonathan Cohen.
Alix, Jonathan.
Oui.
Il faut absolument que vous voyez, si vous avez envie de vous marrer, en tout cas à Budapest, qui est un délire total, le hangover français, à partir d'une histoire vraie. On l'a expliqué tout à l'heure avec Aurélien Boudier de Crazy Voyage, l'idée de deux gamins de banlieue qui ont quand même, grâce justement aux bourses, à l'école et à l'éducation nationale, réussi à se retrouver à HEC, mais en galère de boulot, en galère de réussite, en galère même de s'amuser à pouvoir sortir en boîte entre potes. Yeah. Et donc face à tous ces obstacles, l'un se dit pourquoi pas. Alors ça part comment d'aller à Budapest, je sais plus. C'est point de départ.
Stripteaseuse.
Non, ah oui c'est ça. C'est la stripteaseuse qui dit si vous voulez vous amuser il faut aller à Budapest.
Il faut aller à Budapest.
Exact.
Point c'est de départ. Ce que disent certains Syriens en ce moment.
C'était bien. En fait, c'était bien comme hier, Albert. C'est-à-dire que tu partes tout de suite après ton papier, que tu restes pas surtout pendant l'émission.
Non, mais faut pas oublier quand même qu'il y a un mur et que c'est un pays qui est problématique quant à l'immigration.
Oui.
Hein, quand même.
Il y a du fond dans ce qu'il dit.
C'est jamais comme ça.
Je voulais pas casser l'ambiance.
C'est pourtant réussi. Et donc destination Budapest où tout est permis. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir des chars, des kalachnikovs et tirer à balles réelles comme c'est proposé dans le film.
Mais toi, tu le fais chez toi.
Non, mais je trouve ça totalement dingue.
Génial.
Je trouve ça totalement
c'est
dingue.
C'est à balles
réelles. Et non, et je sais même pas où est le plaisir de détruire, ouais.
De tuer une vache, ça c'est,
ouais, c'est drôle,
c'est un autre délire. Mais
c'est un délire de la destruction en fait.
Mais c'est un défouloir. En fait, c'est tu offres un défouloir à des gens.
En fait, il faut pouvoir
pas
offrir
l'occasion de se défouler.
Tout ce qui est interdit
exactement.
En France, de pouvoir l'offrir.
Mais oui. Mais je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est bien de, à un moment donné, d'avoir une petite zone où on est tellement pressurisé avec des choses, tu sais, voilà, interdiction de ci, interdiction de ça. On peut plus. Non,
c'est cathartique.
C'est cathartique. Et du coup, voilà, il y a cette
ne
petite.
Ne pas tirer à balles réelles est quand même un truc sur lequel on est content de s'appuyer.
Hein.
C'est bon, je trouve que c'est pas mal, hein. Parce qu'après, ça donne les États-Unis, c'est chiant.
C'est bon,
bien vu. Qu'est-ce que j'aime, Alix Poisson?
Mais Alix Poisson, c'est la voix de la vérité.
Oh merde, ça y est.
Oui, elle est là. Elle a toujours été comme ça depuis le conservatoire.
Non, parce qu'elle
est chiante.
parce que non justement parce qu'elle peut être extrêmement drôle et puis il y a toujours un fond qui recadre, qui fait
bien sûr. Mais moi j'ai toujours un peu peur d'Alix, hein, à tout moment. Je sais que je peux vraiment m'en prendre une dans les.
C'est faux.
Dans le film, il y a Monsieur Poulpe, il y a Manu Payette qui est co-auteur du scénario. Il y a Alice Belaïdi qui est votre copine, l'autre épouse. L'autre épouse. Alors vous n'êtes pas exactement dans le même schéma toutes les deux. Elle est plutôt garçon manqué.
C'est ça qui est bien. Oui, elle est beaucoup plus. Elle est un peu adolescente aussi. Elle est à la cool. Hein. Mm. Elle texte pas du tout. Enfin, le comportement de son mec la gêne quand même. Enfin, jusqu'au moment où ça vrille vraiment. Mais sinon, elle le soutient à fond et tout. Et ouais,
le moment où ça vrille, c'est quand vous avez des grosses suspicions de tromperie.
Ah oui.
Voilà. C'est-à-dire que entre faire une affaire pour organiser des enterrements de vie de garçon, pourquoi pas.
Voilà.
Mais tromper ou tomber dans les.
On n'est pas d'accord.
Le stupre, non. Oui. Voilà. Il y a également Ali Mariard, Artus, je l'ai précisé, Arthur Benzacan aussi, Henrietta Edvy, Antoine Gouy et Aude Le Gastellois. Cette joyeuse bande donne un film délire.
Merci.
Mais vraiment, ça fait du bien. C'est un truc de barge. Je suis pas sûr que ça aide ceux qui passent le bac en ce moment d'aller voir Budapest, mais c'est un truc de barge. Il y a une forme d'exutoire.
Si, après, ça défoule.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Exactement. Après avoir passé une épreuve de philo de 4 heures, hop.
Exutoire. Et puis, je précise aux filles, c'est pas un film de garçon, même si tout est autour de l'enterrement de vie de garçon. Il y a au contraire la parole prise par vous, Alix. Hein, c'est vous la première qui prenez les choses en main, mais on va pas révéler le twist qu'il y a à la fin. Mais les femmes reprennent leur place.
Oui, reprennent un peu le pouvoir.
Voilà, exactement. Ouais. Ça sort ce 27 juin prochain. Mmh. Voici Tanguy Pasturon.
Ah oui.
Merci.
Tanguy Tango.
Le jeune garçon Tanguy Pasturo que le président Macron a sermonné lundi souffre.
Oui, puisqu'il a été soumis à une médiatisation délirante. C'est pourquoi, si vous voulez être peinard, n'apostrophez pas Macron, mais Benoît Hamon, qui lui n'est jamais suivi par aucune caméra. À part en juillet, quand sa femme le filme en train de bouffer une glace au lavandou. Alors, flashback, lundi, Macron, le président de la Wine, abandonné à sa naissance sur les marches de la Bourse de New York, est recueilli par Jean-Pierre Gaillard et Bill Gates, est au Mont-Valérien où il commémore le 18 juin. Là, il y a plein de jeunes, parce que les profs arrivés mi-juin ont envie de tout, sauf de faire cours, donc ils les sortent. Classe verte, Aqua Boulevard, Mont-Valérien, bowling. S'il y avait encore du lancer de nains, ils en feraient. Macron, qui aime la foule à partir du moment où celle-ci le tripote sans broncher, il se vit lui-même comme un symbole phallique, serre les paluches des jeunes, ce qui fait qu'il récupère sur sa main du Biactol, du THC et du sébum. Si Brigitte lui lèche le doigt lors d'un jeu coquin, direct elle décède. Et chez Vuitton, ils disent « Ah zut, bon c'est pas tout ça, mais rendez-nous la robe ». Quand soudain, un des collégiens lui demande « Ça va Manu ?» Macron a à peu près le même âge, d'où la proximité. Si Kev Adams croise Régine, on comprend qu'ils lui disent « Mais respect madame ». Mais Macron, c'est ce petit quick ultra connecté qui fait des selfies, est trop cool et fait des checks à tous les kids. Les gosses se sentent moins à l'aise avec Jay-Z qui fait le beau au Louvre parce qu'il a découvert de la croix sur une boîte de chocolat poulain à Noël qu'avec Macron qui est leur copain. Seulement Macron, c'est aussi le garant du respect qu'on doit aux institutions. De la même manière qu'on n'urine pas sur le Sénat, ni sur un sénateur, même s'il bouge moins que le bâtiment, on n'appelle pas le chef de l'État Manu, mais Monsieur le Président, ou si l'on est Christophe Castaner, mon amour. En plus, le jeune chante l'international, comme Arlette Laguiller une fois long lors du congrès de lutte ouvrière, puis on l'a remet au congélo à côté des croustibates jusqu'à l'année suivante. Or, Macron, qui est un libéral, qui kiffe le brousouf, sa sonnerie de réveil, c'est Yves Montand qui dit « Il est l'or, monseigneur hein, ». L'international, il déteste. Hein, lui, son hymne, c'est « Le fric, c'est chic ». Donc là, il répond aux collégiens « Tu te comportes comme il faut, c'est une cérémonie officielle, tu m'appelles monsieur le président de la République ». Il est tellement froissé qu'on pourrait le déposer au pressing 5 à sec avec le pull à trous de Besancenot. Alors sur le fond, Macron a raison. Moi, si quelqu'un me demande « Ça va, t'entends ?», j'y réponds « Tu m'appelles monsieur le chroniqueur de France Inter ». Ça va, quoi.
Le jeune, lui, a apparu un peu, tout petit peu dans la loose totale.
Bah oui, bien sûr, il pense que Macron c'est un pote, l'autre l'envoie bouler. Donc c'est comme de taper dans le dos de Joe Star parce que sous Néandertal on écoutait Ma Benz et que Joe Star en réponse vous poursuit avec un hachoir à viande en hurlant et encore t'as de la chance ce matin, je suis zen. Hein, mais le pire, c'est que la séquence, on l'a vu partout parce que les émissions de télé, elles s'en tapent que le gamin soit médiatisé. Tant que le truc est rigolo, ça les sert. Si Macron avait clashé leur mère, les mecs diffusaient la vidéo quand même. D'autant que le président lui-même a posté sur le net le film intégral de l'échange. Un Macron, c'est le seul type à avoir les bonus DVD de sa vie quotidienne. Résultat, hier, les médias, qui ont tous passé la séquence, nous expliquent quoi ? Que le gamin vit mal la médiatisation. Hein, c'est comme si Norman nous disait « Les mecs, YouTube, c'est nul, prenez plutôt un bon Guillaume Musso ». Ensuite, une journaliste d'Explicite, un média en ligne, va retrouver le jeune à son collège, puis devant chez lui, ça devait être l'ouverture de la chasse, et avec le réchauffement, il n'y a plus de belette, donc il traque les collégiens, l'odeur est la même. Et là, elle explique que ses camarades se moquent de lui, qu'il est harcelé, il vient, dit-elle, de s'enfermer dans sa maison, hein, parce qu'elle est postée devant chez lui et dit « C'est triste, on le harcèle hein, ». Plus con comme processus, il a juste vanté les mérites du véganisme, alors qu'on attend ses potes devant l'hippopotamus. Mamoudou Gassama, mais ça a fait pareil. Il sauve un enfant, on le voit partout, les télés se l'arrachent, et là, il était à deux doigts de se retrouver dans 3 mois comme un blaireau à danser un cha-cha avec Trier Veller, Pamela Anderson et le chien Nemo sur Danse avec les stars. Hein, donc je m'adresse à ce jeune, dont on ne donnera pas le nom, il a assez d'ennuis. Appelons-le Nagui. Après tout, vous êtes jeune, vous aussi. Appelons-le Nagui
ça
quand
va,
même.
Ça va,
hein.
Ça va, ça va.
Bon, Nagui, tiens bon, avec toi, les politiques ont fait leur job, de la com, les médias ont fait leur job, du buzz, mais dans 2 jours, il y aura un autre buzz, et tu redeviendras aussi anonyme qu'Agnès Buzyn. Tu vois pas qui c'est Agnès Buzyn, hein, Nagui ? Eh ben, tu vois, hein, laisse passer la tempête, comme dirait Laurent Wauquiez lorsqu'elle approute son optimiste, vêtu de sa parka de Capitaine Haddock, il voit couler son parti politique. Tu sais, Nagui, moi je te comprends quand t'as appelé Manu, hein, parce qu'après avoir joué à Pascal le grand frère, là, j'ai vu le reportage, tu sais ce qu'il a fait, Manu, au Mont-Valérien ? Des selfies avec d'autres jeunes. Alors là, fini la solennité du moment, le respect aux morts, hein, tout ça s'est effacé comme le CV de la Rousseau. Et un président qui fait des selfies un jour de commémoration, c'est moins un chef d'État qu'un pote à la cool. On n'a pas envie de l'appeler le monsieur le président, on a envie de l'appeler Manu. Hein, Manu ? Allez, Nagui, courage, retourne au collège, ça va passer.
Merci, Tony Rousseau.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Budapest, un film avec j'ai presque envie de dire une espèce de bande de troupes, parce que on n'est pas étonné de se dire que tous ensemble, Alix Poisson, Alice Belaïdi, Monsieur Boult, Jonathan Cohen, Manu Payet, Artus, Arthur Benzakem, que vous puissiez être potes et partir vous aussi dans.
Mais on se connaît depuis, en plus c'est ça qui est fou, on se connaît tous depuis très longtemps. Manu, je connais depuis 12 ans, Poulpe, je connais depuis pareil. Nous, on a fait le conservatoire ensemble, Belaïdi, c'est pareil, on se connaît depuis la nuit des temps, donc c'est très marrant de se retrouver. On n'avait jamais joué ensemble pour la plupart et en même temps, voilà, on est tous potes depuis. On se connaît tous très bien.
Ouais, du coup, c'était très facile hein, dès le premier jour.
Ce que j'allais dire, il fallait retrouver cette ambiance-là pour faire un film comme ça, quoi.
Ouais, bah,
en tout cas, ça aidait.
Ça aide vachement quand même. Oui, on se dit les choses, on a du plaisir.
On est en confiance, ouais, c'est bien.
Il faut absolument parler du délire du goéland.
On peut en parler. Je pense que c'est important d'en parler.
Ouais, métaphore. Mais
non, c'est pas. Moi, je vais lancer une chronique.
Il faut nous raconter. Votre envie de voler.
Oui. Parce qu'il s'en cache, mon personnage. Voilà, il se sent en cage.
Il se sent brimé.
Et il a envie qu'on lui ouvre les fenêtres pour voler tel un goéland. C'est ce qu'il dit lors d'un dîner à sa femme.
C'est un running gag, en fait.
C'est un running, parce qu'il fait que des métaphores d'oiseaux. Et puis, ah là, tu me coupes les ailes, là. Donc, du coup, elle n'en peut plus. Et
à un moment, elle lui dit arrête avec les métaphores d'oiseaux, si je vais péter un câble.
Ouais, t'en as marre des métaphores, et ben voilà, tu me coupes les ailes. Bim. Il sent dans la gueule, et voilà.
Ça, c'est votre impro.
Non, c'est pas de l'impro, c'était écrit, mais on l'a écrit en répétition, ça. On l'a improvisé en répétition.
Et après, on s'est dit que c'était rigolo de tirer le fil et que ça devienne justement sa récurrence, quoi. C'est-à-dire que le mec, dès qu'il a envie de s'envoler, il parle d'un goéland ou d'un oiseau, quoi.
Non, mais c'est vraiment très bien. On a un peu envie de faire partie de la bande de potes. Peut-être pas forcément d'aller à Budapest.
Non,
je vais m'en passer. Mais en tout cas, de faire partie de cette
viens dimanche,
bande de potes.
J'organise un brunch.
Non, ça
c'était sans gluten.
On peut faire des légumes, au barbecue.
Oui, absolument.
C'est vrai qu'on a affaire à deux végétariens.
Surtout Nagui, manifestement.
Et alors ? Et
non, mais je ne juge pas, bien au contraire.
Le film sort le 27 juin et s'appelle Budapest, d'après une histoire vraie. Aurélien était venu
sur,
d'ailleurs
l'invention
ici
d'Instagram.
Pour nous en parler, non, sur l'enterrement de vie de garçon. Il est plus proche de l'enterrement que sa vie de garçon. Wow. Voici Daniel Morin.
Yes. Excellent, il est bon.
Mais qu'est-ce qu'il foutait là ? C'est Albert de Monaco qui a passé la journée d'hier dans l'Essonne.
Ça y est, elle est là. Elle
les sœurs. Il est allé à Longjumeau, Massy, Chili Mazarin. Bon, ok. Il est comte de Longjumeau, marquis de Chili, duc de Mazarin, baron de Massy. C'est vrai, j'ai vérifié. Mais c'est pas une raison pour passer une journée entière dans l'Essonne. Quand t'es prince de Monaco, tu vas pas passer une journée entière dans l'Essonne. Personne veut passer une journée dans l'Essonne. Même les habitants de l'Essonne, ils veulent pas rentrer après le boulot. Quand t'es milliardaire, tu vas pas passer une journée à visiter un département de pauvres. Est-ce que Nagui va visiter le Val-de-Marne ? Non,
j'habitais au
Val-de-Marne. Il y va pas. Déjà, il sait pas que ça existe, le Val-de-Marne, si. Nagui.
94.
Alors, pour en dire, oh là là, oh, les lettres, pour en venir à Albert, à Monaco. Il est prince, il a un palais. En ce moment, il fait hyper beau. Les Hongroises, les Ukrainiennes, elles sont toutes en terrasse. En plus, il a une fondation en lui avec des animaux marins. Il peut passer ses journées à boire des coupes en jouant avec ses amis les dauphins, les otaries, les marsouins. Qu'est-ce qu'il est parti se perdre dans l'Essonne, le gars ? Je l'imagine, le pauvre, à la descente de la limousine quand il est rentré dans la mairie de Longjumeau, au bras de Stéphane Bern, son meilleur ami, pour le pont d'accueil servi par la maire de la ville.
Bonjour, rentrez, Altesse, mettez-vous à l'aise. Qu'est-ce que c'est que ces gens étranges, Stéphane, où je suis ?
C'est l'hôtel de ville, Altesse.
Qu'est-ce que je dois faire ?
Oh non !
Prenez le gobelet, trouvez une gorgée, mais n'avalez surtout pas. Vous vous retournez, vous crachez dans ma poche. On reste juste une minute, on file à l'hôtel, vous désinfectez.
Ah ben, quand t'arrives directement du palais de Monaco à la mairie de Longjumeau, c'est le choc. Heureusement, il y a l'hôtel pour faire une pause.
Tu sais, j'ai un peu peur de cet endroit, mon Stéphane.
Moi, je sais, Majesté, je sais. Mais quelle idée aussi de vouloir venir dans l'Essonne. On aurait pu aller à Genève ou à Sao Paulo.
C'est quoi comme hôtel ?
C'est un Formule 1.
Oh, ils ont un Grand Prix automobile à Longjumeau ?
Non, c'est juste le nom de l'hôtel.
C'est un palace, combien d'étoiles ?
Il n'y a pas d'étoiles dans un Formule 1. Non, ça va au-delà des étoiles. Vous attendez pas au grand luxe. Hein. L'Essonne est une région frustre, peu développée culturellement. Le niveau de confort du département est semblable à celui du 12e siècle.
Je suis sûr que ce sera parfait. Je suis peut-être un prince, mais au fond, je suis resté un mec simple. J'ai hâte de découvrir l'endroit.
Mais parfois, quand la hâte s'arrête, elle laisse place à la stupeur.
Il est plutôt pas mal, le lanquin à la vélo. Montrez-moi la chambre, maintenant.
Mais c'est votre chambre, Altesse.
Ah, oh, qu'est-ce qui se passe, Majesté? Vite, mes selles, je me sens pas bien. Je vous l'avais dit, faut pas rester ici. Vite, un bain glacé, je convulse. De suite, Majesté, de suite. Venez, venez vous tremper. Mais je vais pas prendre un bain dans le bidet. Mais c'est la baignoire, Majesté, c'est la baignoire.
Bon, tout s'est arrangé, pas de panique. Un hélicoptère est venu chercher le prince. 4 heures plus tard, il était de retour dans sa piscine. Piscine qui, en gros, fait la surface de Longjumeau tout entier pour jouer avec ses dauphins et tout est bien, qui finit bien. Maintenant, faut arrêter les conneries, hein, d'envie exotique, mon prince. Un jour, vous allez avoir un pépin. Je tiens quand même, avant de conclure, à préciser et à signaler que pendant que je finissais cette chronique, intrigué, Nagui s'est renseigné sur le Val-de-Marne par téléphone et il a acheté Créteil pour en faire un parking.
Allez, Nagui, la bande originale.
Merci Daniel.
Quelle belle imitation, Stéphane Bern.
C'est vrai, donc tu tiens bien.
Ah ça, je le tiens.
Je suis très inquiet parce qu'en fait, Daniel Morin déteste tous les animateurs qu'il a fait virer ici.
C'est
systématiquement.
Il y en a un qui je peux pas blairer.
Ouais, c'est moi, je sais, mais je suis encore là. Alix, et Jonathan, parlons un tout petit peu de l'avenir, notamment de jeux d'influence dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une date de diffusion sur Arte ? On sait à la rentrée ?
Non, elle n'est pas précise, mais c'est un peu après la rentrée.
Vous êtes une journaliste politique, hein, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Il y a toujours par en mode d'emploi qui va continuer, qui réunit ces 4 millions de téléspectateurs. Vous avez une visibilité, vous êtes sûr de l'année prochaine, en tout cas, oui ?
Oui, non, enfin, c'est-à-dire, on fait aussi en fonction de... parce qu'on fait de plus en plus de choses avec M. Ducret. Donc,
en fonction de vos plannings respectifs.
Voilà, on fait en sorte que tout puisse se concilier, quoi.
Des envies professionnelles ? D'aller
plein.
Au théâtre.
Oui, je vais être au théâtre l'année prochaine, je suis très contente.
Racontez-nous.
Ouais, je vais être dans Justice, au théâtre de l'œuvre.
Ah oui.
Chez François-Xavier de Maison.
Oui, dans le théâtre de François-Xavier et de Benoît Lavigne. Et voilà, je suis très très contente c'est un superbe texte. C'est mis en scène par Salomé Lelouch et c'est écrit par Samantha Markovitch. Et c'est vraiment un très très beau texte.
Et c'est un retour au théâtre pour vous, parce que ça fait quelques années.
Oui, ça fait 3-4 ans, parce que je tournais trop, donc du coup je pouvais pas. Mais là, du coup, je vais être à la rentrée fait au théâtre.
C'est François-Xavier qui vous a donné l'idée ou donné l'envie ou parlé, parce qu'on rappelle qu'il vous a produit et que vous avez joué ensemble. Donc,
Ouais. D'ailleurs, on va faire aussi Quadra. La saison 2 de Quadra, donc on est très content. Lui certainement, oui, il a pensé, et puis je sais pas exactement comment ça s'est fait, mais un jour ils m'ont appelé pour me proposer ça.
C'est à partir de septembre ou janvier?
Moi, je vais jouer à partir de octobre.
D'accord.
Il y a deux distributions en fait, donc premier groupe
pour
en septembre,
permettre aux uns et aux autres d'être libres de leur temps pour faire d'autres choses à côté. Le 21 novembre, Jonathan, vous serez à l'affiche d'Amanda de Michael Hers avec Vincent Lacoste. Ouais. Quel est votre personnage ou quel est le résumé du film?
C'est un gars qui a une papeterie. Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans.
Certaines vannes méritent d'être testées avant.
Ouais. Et tu vois, j'ai pas encore cette. Ouais, au moins il y a de l'audace, voilà, un minimum.
Le panache du TPLV, tout pour la vanne. Allons-y.
Exactement. Non, je joue aux côtés de Vincent Lacoste.
Ça raconte quoi, Amanda?
L'école. Ça raconte quoi?
Amanda, ça.
Il y avait une pièce qui s'appelait Amanda, mais est-ce que c'est un rapport avec Amanda?
Non, rien à voir. Rien à voir. C'est pas du tout une comédie. C'est un drame qui parle, des attentats du 13 novembre.
D'accord.
D'une certaine manière, c'est d'autres attentats, mais qui vraiment sont la même racine. Et du coup, voilà, moi je fais partie des gens qui ont été touchés par cet attentat et qui connaît Vincent. Et donc c'est une petite participation, mais je suis trop trop content d'être dedans, parce que c'est vraiment un film magnifique. Voilà.
Et Première Vacances, c'est un film de Patrick Cassir.
Yes.
Alors là, vu le casting, j'imagine que c'est une comédie, ou alors vous êtes tous
en
total décalage.
Je pense que ça va vous plaire, ça.
Parce j'espère.
Que, ouais, parce
Camille
que vraiment,
Chamou,
ouais.
Camille Cotin, Vincent Dedienne et vous.
Vincent Dedienne, mais moi aussi, du coup.
Quand vous parlez de vous, vous dites nous, alors.
Je pense comme un nous.
Vous êtes plusieurs.
On est plusieurs inside.
Vous êtes un ensemble.
Exactement. J'ai un ensemble de pièces réunies. Mais j'aime beaucoup ce film, parce que il a un ton de comédie qui est super, voilà, et qui a vraiment qui est très réaliste en même temps très comédie, un peu comme Budapest, mais encore autre chose. Mais c'est vraiment, voilà, je suis très content de ce film.
Et vous reprenez l'écriture, donc vous avez tout de Serge Le Mito.
Yes.
Enfin, vous reprenez, vous l'avez développé en long métrage.
Après vous, là, j'ai une séance d'écriture avec les gars.
On va faire vite.
ça vous dérange pas.
Non, mais comment imaginer une heure et demie, deux heures, une histoire cohérente pendant une heure et demie, alors que tout était fait de modules plutôt court.
En fait, je pense qu'on va on va tisser une histoire, voilà, on va essayer de faire une belle structure d'histoire, et puis après à l'intérieur, on va laisser place à l'impro. Il y aura des impros guidés, on sait ce qu'on veut raconter, mais de savoir comment on va le raconter, pour le coup, ça, on va se laisser le mystère.
Est-ce que c'est la même équipe que celle qui faisait avec vous Serge Mito?
La même.
Que ce soit en réalisation, en écriture,
en acteur, on va garder les mêmes personnes qu'il y avait dans la série, ça sera les mêmes réalisateurs, la même prod, et on va se lancer là-dedans. Mais c'est très très excitant, parce qu'on ne sait pas, quand tu joues dans un cercle, tu ne sais pas où ça va aller. Donc j'espère que le film aura toujours cette même note.
C'est la phrase avec laquelle nous conclurons cette émission. Quand tu joues dans un Serge, tu ne sais
pas où tu vas aller. C'est ça qui est assez cool.
J'adore. Budapest sort le 27 juin prochain. Film réalisé par Xavier Jeance, avec Manu Payet, avec Monsieur Poulpe, Alice Belaïdi, Ali Mariard, Artus, Aude Le Gastellois, Antoine Gouy, Henrietta Edvy, Arthur Benzaken et nos deux invités, c'est-à-dire Alix Poisson et Jonathan Cohen. Des excuses à présenter.
Désolé pour l'ami de Jonathan Cohen et le directeur du musée de la photo de Stockholm qui ont été moqués, humiliés, piétinés par Jonathan Cohen. C'est vrai, c'est moche. En même temps, il l'a reconnu lui-même. C'est une belle balance, monsieur Cohen, vous êtes un salaud. Désolé encore pour Jonathan Cohen qui, comme dans le film, a été tout bonnement castré par Alix Poisson. Impossible de finir une phrase, impossible de penser différemment, impossible de respirer, impossible de péter tranquille. C'est pas une vie. Et désolé pour la morale et le bon goût qui, selon moi et certains auditeurs, n'ont pas été de valeur très très respectées ce matin. C'est vrai que moi-même, je me sens sale. 30 ans de maison pour finir comme ça, j'ai envie de me foutre en l'air.
Oh,
il est fort, il est fort.
Choupinou.
Choupette.
Ouais, c'est ça. Demain, Bérangère Krief et Grégory Fitoussi seront nos invités. Budapest, c'est un film qui sort le 27 juin. Allez-y et régalez-vous et amusez-vous. Merci mille fois, Alix.
Merci, merci à vous, c'est trop cool. On a envie de revenir tout le temps.
Non, merci. À suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand.
Oui, salut les amis.
Ciao. Bonne émission.
Oui, et Daniel, oui, on t'aime.
Bon, non, n'en fais pas trop non plus. Non, pas
et même si t'aimes pas les animateurs du 11-12-30, c'est pas grave.
Ouais. C'est vrai, j'aime pas trop.
Ouais. Bon, allez, il est courage. L'heure.